Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation au Darfour, l'ONU prolonge ses consultations avec les parties syriennes, le secrétaire général salue la nouvelle constitution au Népal, mission de l'OMS sur la flambée de MERS coronavirus en République de Corée, poursuite des travaux de la conférence sur les droits des personnes handicapées, le Comité des droits de l'enfant dénonce l'incorporation d'enfants dans l'armée érythréenne et nous ferons aussi le point sur la situation en Côte d'Ivoire avec Aïchatou Mindaoudou. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce matin pour examiner la situation au Darfour où près de 200 000 personnes auraient été déplacées depuis le début de l'année en raison des violences. Les 15 ont entendu le sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix indiquer que la situation sécuritaire fort inquiétante est caractérisée par des conflits intercommunautaires et la criminalité. Edmond Mullet a demandé le renouvellement de l'opération hybride Union africaine-Nations unies au Darfour, mais s'est aussi penché sur l'élaboration d'un plan pour le retrait progressif de cette mission. On l'écoute.
L'élaboration d'une stratégie de retrait pour la MINUAD doit être liée aux résultats obtenus par rapport à cet objectif et à l'amélioration concrète de la situation sur le terrain. Lorsque nos efforts dans ce sens auront porté leurs fruits, lorsque la population sera libérée de la peur et de ses violences, alors il sera temps de nous désengager. En attendant, nous devons continuer la coopération sur la base d'une confiance mutuelle. C'est pourquoi, en commun accord avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le secrétariat des Nations unies souhaiterait que le mandat de la MINUAD soit prolongé pour une année supplémentaire jusqu'au mois de juin 2016.
À Genève, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a annoncé que les consultations informelles entre l'ONU et les parties prenantes au conflit syrien se poursuivront jusqu'au mois de juillet. Les consultations de Genève, qui ont débuté le 5 mai, sont un processus de réunion individuelle et informelle visant à rendre opérationnel l'accord de Genève du 30 juin 2012. Cet accord porte sur les principes d'un processus de transition politique dirigé par les Syriens. Les précisions de Florence Westgaard.
Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, Staffan de Mistura a indiqué que depuis le 5 mai dernier, il s'était entretenu avec des représentants du gouvernement syrien, de la coalition de l'opposition syrienne et de 39 formations politiques et de la société civile du pays. Staffan de Mistura et son envoyé spécial conjoint pour la Syrie, Ramzi Ezzaldine Ramzi, ont également organisé 26 réunions avec des représentants d'État de la région, des États membres du Conseil de sécurité et d'organisations régionales. L'envoyé spécial a insisté sur le fait que la seule issue possible à la crise actuelle en Syrie réside dans un processus de négociation politique inclusive à l'initiative des parties syriennes. Il a d'ailleurs souligné qu'il existe un consensus général qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la tragédie syrienne. Et il a exprimé le souhait que le conflit en Syrie prenne fin dans les plus brefs délais. Staffan de Mistura a appelé les acteurs syriens, régionaux et internationaux à tout faire pour mettre un terme au combat et à protéger les populations civiles, dénonçant notamment l'usage inacceptable de bombes à barils.
Le secrétaire général s'est félicité mardi de l'accord entre partis politiques au Népal sur une nouvelle constitution. Cette nouvelle intervient alors que le pays se remet petit à petit des deux tremblements de terre du 25 avril et du 12 mai dernier. Séismes qui ont tué plus de 8 000 personnes alors que plus de 9 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les détails avec Tsige Shiferau.
Dans un communiqué, Ban Ki-moon a applaudi les efforts des chefs politiques népalais qui sont parvenus à se mettre d'accord pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Il a aussi encouragé la classe politique du Népal à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cet accord, notamment dans le processus de rédaction du texte. Des accords de paix avaient permis au Népal de se doter d'une constitution temporaire depuis 2007, mais s'était retrouvé dans une impasse politique à plusieurs reprises par la suite. Ban Ki-moon a indiqué que cet accomplissement était d'autant plus louable étant donné les circonstances particulièrement difficiles auxquelles le pays est confronté suite aux deux séismes en avril et mai dernier. Enfin, le secrétaire général a exprimé son soutien au processus de paix et à la reconstruction du pays, réaffirmant le soutien des Nations Unies.
À noter par ailleurs que le secrétaire général était aujourd'hui au Kazakhstan où il a participé au congrès des dirigeants de religions mondiales et traditionnelles. À cette occasion, Ban Ki-moon a affirmé que les dirigeants de religions doivent enseigner à leurs disciples la véritable signification de la réconciliation et du respect mutuel et qu'ils ont aussi le devoir de réagir lorsque des soi-disant adhérents à leur religion commettent des crimes en son nom. Chacun doit savoir que les crimes commis au nom de la religion sont des crimes contre la religion, a-t-il souligné. Une mission conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé et du Bien-être de la République de Corée a débuté hier à Séoul pour examiner la récente flambée de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Depuis l'irruption de la maladie le 20 mai dernier, 108 cas ont été confirmés, dont un en Chine, et 9 personnes ont péri. Plus d'explications avec Tariq Yasharevitch, porte-parole de l'OMS.
L'OMS a joint le ministère de la Santé de Corée du Sud pour mener une enquête pour essayer de comprendre le côté épidémiologique de ces chaînes de transmission, de aussi comprendre comment le virus se comporte et aussi revoir un peu les mesures qui ont été déjà prises par les autorités sanitaires coréennes pour essayer de contenir cette épidémie. Après un premier jour de visite, il est sûr qu'il faut renforcer les mesures de contrôle et de prévention des infections dans les hôpitaux où il y avait des cas. Il faut aussi surveiller les gens qui étaient en contact proche des personnes qui ont été testées positives. Les gens qui sont symptomatiques devraient être testés pour MERS.
Au siège, la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées poursuit ses travaux dans un contexte marqué par les dernières négociations sur le prochain agenda pour le développement post-2015. Autre fait marquant, le premier examen du problème de la lèpre dans le contexte du handicap. Yohei Sasakawa est président de la Nippon Foundation et ambassadeur de bonne volonté de l'OMS.
Selon la définition de l'OMS, lorsqu'il y a moins d'une personne atteinte de la lèpre sur 10 000, on considère que la lèpre a été éliminée. Je me suis rendu dans 123 pays endémiques, mais le pays endémique le plus important demeure le Brésil. Cependant, du point de vue de la population, c'est l'Inde qui est un des pays les plus importants qui a encore de nombreux malades, car 60% des malades de la lèpre se trouvent en Inde.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Le Comité des droits de l'enfant dénonce l'incorporation d'enfants dans l'armée érythréenne et demande à Asmara de veiller à ce que les enfants ne soient pas enrôlés pour effectuer ce service militaire obligatoire connu sous le nom de SAWA. Les experts de l'ONU ont publié ce mercredi à Genève leurs observations finales concernant le rapport de l'Érythrée qui a été examiné le 20 mai dernier. Interrogée par Alpha Diallo, Susanna Hoasuma, membre du Comité des droits de l'enfant et co-rapporteuse pour le rapport de l'Érythrée, fait le point sur l'enrôlement souvent forcé d'enfants dans les camps militaires du pays.
Pour nous, c'est une situation très très préoccupante et même alarmante parce qu'on a pu constater qu'il y avait des enfants qui, par exemple, avant d'avoir leur diplôme à la fin du cursus scolaire, devaient passer par une formation militaire avant d'avoir ces diplômes-là. Il y a aussi des enfants de la rue qui sont des clients potentiels qu'on enrôle aussi de force. Pour la plupart, d'abord, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, on les prend, on les forme manu militari. Et pour nous, vraiment, c'est une situation qui devrait interpeller tout un chacun et tous les États, et même la communauté internationale, pour qu'on mette fin à l'enrôlement forcé de ces enfants-là qui, au cours de leur formation, subissent des brimades, des abus sexuels, surtout lorsqu'ils essaient de s'échapper de ces camps-là.
Est-ce que vous avez reçu des garanties de la part des autorités érythréennes lors de l'examen de leur rapport concernant l'âge minimal pour la formation militaire obligatoire fixée à 18 ans, qu'elle soit toujours respectée?
Bon, ils ont promis qu'ils allaient revoir leur législation pour amener donc l'âge à 18 ans. Mais entre ce qui est écrit et ce qui est dit, il y a la réalité, il y a des marges. Donc on se demande vraiment, est-ce que cette garantie qu'ils nous ont donnée va pouvoir se tenir? Donc il va falloir un travail de surveillance et de contrôle et de pression aussi pour amener ce pays vraiment à respecter cet âge-là. On reste quand même un peu sur la défensive, entre guillemets, parce que ne connaissant pas justement la réalité sur le terrain, ce qui serait bon d'ailleurs d'aller connaître, c'est quand l'AIX existe. Mais d'aller savoir ce qui s'y passe, on essaie d'imaginer. Et pour nous, c'est quand normalement on devrait pouvoir les fermer et puis avoir des structures plus souples pour des enfants de 18 ans.
L'autre problème aussi soulevé par l'examen du rapport de l'ERT, c'est le manque de données. Est-ce que On ne sait pas combien d'enfants sont enrôlés dans ces camps. On n'a aucune idée par rapport à l'ampleur du problème.
C'est exact parce que ce n'est même pas par rapport seulement au camp. C'est sur l'ensemble du pays, c'est sur toute la problématique de l'enfant qu'il n'y a pas de données. Alors on se demande si ce n'est pas une stratégie volontaire du pays de ne pas justement donner des chiffres pour que ça reflète la situation, pour que ce soit alarmant et autres. Alors, la question, c'était pourquoi ce pays protège ses données et ne veut pas en parler. Donc, il va falloir aussi peut-être faire de la pression pour avoir des chiffres, des données. Parce que sans les données, on ne peut pas avoir des stratégies pour pouvoir avoir des activités pour réduire, par exemple, le taux de mortalité, le taux de l'excision et autres.
À 4 mois des élections prévues en Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité s'est réuni mardi pour entendre le dernier rapport du secrétaire général sur ce pays, notamment en vue de l'arrivée à échéance du mandat de l'ONUSI, la mission de l'ONU dans le pays. En présentant le rapport, la représentante spéciale des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou, s'est dite optimiste et confiante pour la Côte d'Ivoire. Pour en savoir plus, Christina Silvero est allée à sa rencontre.
J'ai dit devant le Conseil de sécurité que je suis optimiste et confiante pour la Côte d'Ivoire, même si on doit rester prudent. Donc la Côte d'Ivoire se porte à la hauteur de mon optimisme et de ma confiance.
Vous avez signalé énormément d'avancées, notamment par rapport au dialogue politique, au processus de DDR. Pouvez-vous nous faire un peu un tour d'horizon pour nous expliquer la situation sur le terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire ?
Oui. Vous savez, le dialogue politique, c'est un processus. Et un processus qui nécessite que les partis s'asseyent ensemble et discutent ensemble. Rien qu'en s'asseyant ensemble et en commençant à discuter, c'est déjà une avancée. Parce que le plus grand péril pour le dialogue politique, c'est la rupture de dialogue. Donc en Côte d'Ivoire, depuis 2 ans, le gouvernement et les partis politiques s'asseyent pour discuter. Ils s'asseyent pour discuter sur un ordre du jour précis, sur des sujets précis qui sont des sujets de préoccupation. Même si tous les sujets ne sont pas réglés, mais des discussions se font sur ces différents sujets-là. Et c'est la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui est une situation importante, surtout lorsque l'on sait que les élections vont se tenir dans quelques mois. Et le fait que partis politiques de l'opposition et gouvernement se parlent va rassurer les populations par rapport à la préoccupation des hommes politiques sur la situation de leur pays.
Alors, est-ce que la formation de cette coalition nationale pour le changement change la donne justement par rapport au contexte politique ? Est-ce qu'elle pose un défi ?
Non, je ne le vois pas en termes de défi. Je le vois plutôt en termes de vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce que la caractéristique principale d'une démocratie, c'est la pluralité des opinions. Donc, elle ne se pose pas en termes de défi. Si tant est que cette expression de cette nouvelle opinion, elle se fait dans le respect de la loi, dans le respect de l'ordre public. C'est plutôt un apport positif dans la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ce sont les élections qui devront démontrer le poids réel de chacun. Nous appelons toujours au fait que, au-delà des hommes politiques, les populations ivoiriennes s'entendent sur une sorte de gentleman agreement pour qu'un environnement pacifié, favorable à l'organisation d'élections crédibles, libres et démocratiques soit créé pour que le pays renoue avec la démocratie, renoue avec le débat d'idées, renoue avec les différents droits qui sont afférents à la démocratie.
Quel va être le rôle de l'ONU dans l'accompagnement justement de la tenue des élections en novembre ?
On attend la résolution du Conseil de sécurité. J'ai présenté le rapport, donc nous allons voir quelle dimension va prendre le rôle d'accompagnement des Nations Unies pour les élections. Je peux vous dire les attentes du gouvernement pour ce qui concerne l'ONUSI. C'est un accompagnement sur le plan logistique parce que nous avons du matériel, nous avons des moyens. Et il y a aussi tout l'accompagnement au niveau sécuritaire parce que nous avons quand même 5430 militaires sur le terrain et nous avons 1500 policiers qui travaillent en étroite collaboration avec les militaires, les policiers et les gendarmes ivoiriens. Et d'ailleurs, tous ensemble, ils sont en train de réfléchir sur un plan de sécurisation des élections. Donc nous viendrons en accompagnement des efforts des autorités parce que ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est que ce sont des élections ivoiriennes organisées par les Ivoiriens, mais nous serons aux côtés des Ivoiriens pour les accompagner.
Et c'est avec Aïchatou Mindaoudou que se referme ce journal de la radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain jeudi, même heure, même fréquence.